attention à nous, c'est la fête de Saint-Pétis aujourd'hui, et c'est le 21, c'est du mois d'août. Voilà, jusqu'au 24 août, on est dans la neuvaine de l'Assomption. Demain, c'est la fête de Marie-Reine, Reine Immaculée de l'Univers. Demain, on se prépare avec le pape Saint-Pétis à pénétrer à l'intérieur du trône de la Reine du Ciel et de la Terre, intronisé. Et les intentions qu'on m'a confiées, là, c'est le... Pour la messe du matin, c'est une très belle intention que j'aime beaucoup, que je trouve magnifique. Et c'est comme c'est le dernier jour, ça a duré 21 jours, 22 jours, c'est le dernier jour de cette intention. Et l'intention, c'est de dire, voilà, il y a des enfants qui sont comme ça sous l'autel. Il y a beaucoup de gens qui pensent à ces enfants. Il y a beaucoup de gens qui les aiment, ces enfants, qu'on appelle ça les enfants non-nés, c'est vrai. C'est... Nous ici, on a l'habitude de les dénombrer 700 milliards de fois. Et... On est, je crois, des millions de gens à penser tous les jours, à mettre de l'eau bénite, à exprimer ce désir qui soit porté comme ça vers les lieux saints de la terre et tout, dans les cœurs les plus sanctifiés, les plus immaculés, les plus aimants, et surtout dans le sein, dans le cœur, rempli d'amour ultime, de plénitude reçue, de la grande sainteté du temps qui s'ouvre. Il doit y avoir des grands saints comme ça. Au moins un, en tout cas. Bon, et voilà, et il y a beaucoup de choses qui se font, et même des évêques, hein, même des successeurs des apôtres. Le Saint-Père avait dit, voilà, il avait remercié tous les prêtres. Un jour de 28 décembre des Saints Innocents, il avait remercié les prêtres qui disaient explicitement, pendant le memento de la messe, que voilà, ces enfants qui avaient été non-nés, avortés, tout ça, étaient convoqués, emportés, introduits sur l'autel des parfums, l'autel qui parfume, que le Christ parfume dans cette glorification éternelle de Dieu, son Père, avec l'Esprit Saint. Voilà, donc, que ces enfants soient tirés, exprimés et pénétrés de cette... Oblation eucharistique, voilà, le pape lui-même avait remercié les prêtres qui l'exprimaient explicitement dans le même temps. Donc on peut pas dire, grâce à Dieu, ces enfants sont aimés, quoi, hein. Ces enfants, on les aime, ils sont pas abandonnés par absolument tout le monde. On peut pas dire ça. La bonté de Dieu ne le permet pas, ça. Ne permet pas que il a voulu, par exemple, que l'enfant à Bethléem, il y ait des pauvres qui sont là, qui viennent l'adorer. Voilà, il a voulu qu'il y ait quand même quelque chose qui est l'étoile vivante qui vienne se conduire, même des rois, des sages, les priants. Peut-être pas beaucoup, mais quand même. Quand même. Et les uns comme les autres, des petits, les plus pauvres jusqu'aux plus sages, ben, ils étaient accompagnés quand même par un ministère angélique, glorieux et universel. Il y a quelque chose d'un petit peu semblable pour saluer le roi, la royauté de Jésus qui est destinée à ces enfants-là. Voilà, donc ça c'est une chose effectivement que leur âme désirée, leur vie oubliée, leur lumière palpitante, leur soif dans l'acquiescement de la vie, la reconnaissance d'exister comme ça depuis la main de Dieu jusqu'à son accomplissement dans ce que Dieu veut dans l'inscription du livre de la vie. C'est une chose qui est déjà qui s'exprime tous les jours. Et puis ce sera, j'en suis sûr, de plus en plus, de toute façon. Mais telle n'est pas l'intention donc qui a été confiée. Mais c'est à leur propos, quand même, le fait qu'ils soient enveloppés comme ça, imbibés sans doute de la rosée, du désir de baptême, des édions de la terre, le fait qu'ils soient, j'allais dire, vraiment, enfin, presque de manière très palpable, incarnée, palpitante, caressante, pénétrée par la lumière surnaturelle de la foi remplie d'amour et d'espérance de l'Église militante dans l'ouverture du cinquième saut, le fait qu'ils soient habités, quoi, finalement, par... et qu'ils soient reconnus et établis comme des justes dans la Sainte Famille de la grâce sanctifiante, c'est une chose. Mais il y a aussi quelque chose, c'est que ils ont quelque chose qui les rapproche de manière très... qui doit les rapprocher de manière très... très spéciale du feu eucharistique de Jésus. C'est leur corps. Ils ont été créés par Dieu dans la main paternelle de Dieu, dans le sein des saints. Ils ont été établis dans un corps vivant. Et leurs esprits émerveillés ont acquiescé cette existence à l'intérieur d'un corps qu'ils devaient quitter ensuite. Et ce corps s'est multiplié, j'allais dire, d'enthousiasme, et il a laissé dans le sang. Dans le sang de la terre, il a laissé, dans le sang de la mer, il a laissé donc des millions et des millions des millions et des millions de cellules vivantes de ce corps. Ces fameuses cellules staminales embryonnaires. C'est des millions qui sont restés, bien sûr, d'accord, et leur... il y a eu comme une espèce de première séparation de ce corps, mais qui n'est pas complet. Qui n'est pas complet. Pendant 40-50 ans, ce retrait total du corps n'est pas, ne va pas jusqu'à l'ousia, jusqu'à la... il reste quelque chose qui leur appartient quant à leur personne, et qui reste dans le sang de la terre et dans le sang de la mer. Voilà, et c'est ce corps. Donc l'intention de la messe, c'est pour vous dire, l'intention de la messe qui m'a été confiée par Catherine, c'est de dire, si trois fois sept jours, comme ça, on pouvez les plonger le corps de chacun d'entre eux, ce corps encore vivant, le plonger dans le calice, dans le très précieux sang. Plonger chacun leur corps, leur âme, et dans l'affection, et on l'espère dans la grâce, sanctifiant du corps mystique de ce vivant, mais leur corps, ce corps qui les lie encore au temps, et à la croissance, et à la capacité de multiplier les vertus héroïques, de pardon, de miséricorde, de victoire définitive sur l'Antéchrist, qu'une portion de l'humanité puisse porter cette victoire jusqu'à son terme échu. Ce corps-là, voilà que par la puissance du cœur eucharistique vivant de Jésus vivant, il puisse être englouti, intronisé, déposé dans le trône du cœur eucharistique de Jésus. Et dans ce trône, qu'il devienne dans ce trône lui-même, tandis qu'on le plonge dans le calice, dans le très précieux sang de Jésus, chacun d'entre eux. Et c'est la 21e fois qu'on célèbre cette messe-là le matin pour cette intention. C'est bien ce juste, et puis la veille du coup, la fête de Marie-Reine. Du coup, on célèbre demain matin la messe pour que ces 21 jours explosent, se déploient dans l'introduction, dans le sang de la royauté immaculée de Marie, reine immaculée du ciel et de la terre, pour que le miracle des trois éléments puisse faire son œuvre. Et leur corps, 700 milliards de fois, c'est beau ça. Pas grappe, n'est-ce pas, entière là, trempé dans le précieux sang, on a besoin de dire Jésus-Christ. Il y a parmi eux, je pense souvent à ça, il y a parmi eux ceux qui ont été arrêtés, quoi. Beaucoup, la plupart ont été arrêtés, quoi, tandis qu'ils arrivaient au stade où commençaient à se produire les premières cellules du cœur. Les premières cellules du cœur, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est quelque chose d'assez impressionnant, parce que quand on est formé par le bon Dieu, il nous tisse dans le sein maternel, il nous forme comme ça, et qu'on grandit, les toutes premières cellules qui se spécifient, quoi. Au départ, toutes les cellules sont totipotentes, elles peuvent devenir des cellules n'importe quoi, des cheveux, de sang, de nerveuse, hein, cellules. Et puis, mais les toutes premières, c'est les cellules du cœur. C'est les cellules qui vont ensuite se rassembler et se regrouper, puis devenir un cœur qui commence à battre, comme ça. D'ailleurs, il y a une connotation rouge, d'ailleurs, il y a aussi un petit peu de sang, hein. Mais avant que ça ne devienne comme ça, physique, que ça prenne cette forme-là de organique, il y a d'abord des premières cellules qu'on ne voit pas, parce qu'elles se mélangent aux cellules pluripotentes, elles sont dans le germe. Et ces cellules, ce qu'on a découvert, parce que c'est bien des choses quelquefois qu'on découvre par la science, puisqu'en fond, la vie embryonnaire, c'est l'innocence, quoi. L'innocence sortie des mains créatives de Dieu, c'est une Bible ouverte, c'est un évangile annoncé, quoi. L'Immaculée Conception, c'est l'évangile à l'état pur ouvert devant nos yeux, en sa chair. Alors, donc, il y a quelque chose, effectivement, l'Immaculée, les toutes premières cellules qui sont sorties de l'Immaculée Conception lorsqu'elles se sont devenues spécifiques, lorsqu'elles ont développé les premières fleurs de son jardin embryonnaire, c'était les cellules du cœur. Imagine, la première cellule du cœur. C'est pas un cœur, la première cellule du cœur, c'est juste une cellule, c'est tout. Mais c'est une cellule qu'il faut. Et puis deux, puis trois, puis cinq. Voilà, on voit rien du tout. Pour l'instant, c'est encore rien du tout. On voit rien. Je crois que même au microscope, on voit pas grand-chose. Et pourtant, on a regardé, on a repéré ceci. C'est que... Et je trouve ça assez extraordinaire. On a repéré que ces cellules du cœur, avant qu'elles ne se regroupent pour faire un cœur qui fait comme ça, qui bat comme ça, les cellules du cœur elles-mêmes font comme ça. Et elles se regroupent volontiers, les toutes premières ensemble, qu'elles font déjà ensemble, pas de manière, pas d'un seul battement, mais ensemble, elles sont là. Les cellules du cœur déjà battent déjà. Et c'est à peu près au moment où on vient s'étouffer dans la stérilet, quoi. Quand on vient s'étouffer dans la stérilet, par exemple, l'enfant ne meurt pas tout de suite, évidemment que non. Il va attendre, ça va attendre quand même pas mal de jours. Et c'est à cause de ça, c'est lorsque, c'est après être arrêté, étranglé en stérilet, c'est après que commence, tandis qu'il expire, les toutes premières cellules du cœur. Tant qu'il n'est pas accroché sur stérilet, l'enfant n'est pas au stade où il développe les premières cellules du cœur. Les premières cellules du cœur se développent lorsque, voyez, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça veut dire que les premières cellules du cœur de ces enfants-là, pour l'immense majorité, l'écrasante majorité, sont les cellules du cœur qui acceptent déjà dans l'acquiescement, puisque c'est la seule chose que librement on puisse faire de manière parfaite à cette période-là de la vie, acquiesce à avoir un cœur qui palpite dans l'agonie du don de soi, dans l'offrande. Donc il n'y a pas plus proche que... et c'est aussi le stade où il commence à délester, où l'enfant commence à délester hors de lui-même pour qu'il demeure vivant dans le corps de la mère, des cellules terminales. C'est beau quand même les lois de la sagesse de... Et on voit que la sagesse de Dieu est une sagesse de la croix. La sagesse de Dieu, c'est la sagesse de la croix. C'est ce qu'il y a de fou dans le monde, ce qu'il y a de pitoyable, méprisé, écrasé, supprimé. Méprisé, enfin oublié dans le monde. C'est ça que Dieu choisit. Et c'est quand même alors c'est quand même le pape, hein, le Saint-Père qui doit, les Saint-Jean, enfin l'apôtre de Marie qui sur la terre avec les sacrements, quelle est sa fonction si c'est pas celle de recueillir ce qu'il y a de plus pur, ce qu'il y a de plus, qu'il y a plus de puissance potentiellement à l'acte pur de Dieu dans la sagesse de la croix, de l'union hypostatique des Seigneurs Jésus et de l'Immaculée Conception. Et c'est pour ça qu'effectivement, plus on se rapproche d'une intention pareille, plus on se rapproche de la finalité principale de l'Eucharistie. Et voilà, et donc c'est pour ça que cette intention elle est belle. Pas seulement belle, elle a quelque chose de très vertigineux. Ça donne un tourment, quoi, l'Eucharistique à toutes les messes de la terre, ça. Avertise. Que Dieu s'est fait comme ça, offrande victimale, dès son union hypostatique, Dieu, dès la première cellule, mais ses premières cellules de son cœur aussi, quoi. Ce qu'il y a aussi d'extraordinaire, que je trouve, vous voyez, quand on médite le mystère de la visitation, hein, c'est que Jésus, il n'en est pas au 19e jour, quand même. Marie est partie immédiatement, en toute hâte, à toute vitesse, elle est partie, avec Joseph pour aller chez Saint-Baptiste, et le corps, le petit. Le Verbe éternel, la toute-puissance de lumière, d'amour resplendissant, et un créé éternel de Dieu dans ces petites cellules, quoi. Il était 2, 3, 20, 50, 100. Rien du tout, il n'y avait pas la moindre cellule cardiaque, si je puis dire, il n'y a pas celle du cœur de Jésus. Donc il y a eu d'abord cette puisque là, dans ces périodes-là, surtout lorsqu'on est dans un état d'originel sans péché, immaculé sans péché, comme c'est le cas de l'Immaculée Conception de Jésus, les cellules du corps, le corps a, lorsqu'il est pénétré dans l'amour, la voix et le transport, il est pénétré d'une capacité d'agilité, de subtilité, de luminosité, et donc une capacité de pénétrer, d'être introduit dans le trône de la bénédiction qui a été transmise dans le plus grand des fils de la femme, qui est un embryon, et lui, son cœur bat. Et effectivement, donc, il y a eu quand même une espèce de transfusion, on peut dire, mystique, mais voilà, mais métamorphose quand même. Ça implique la cinquième demeure, c'est sûr. Dans le Christ, il y a les sept demeures ensemble, hein, mais c'est dans l'amour, et donc il y a quand même quelque chose de flamboyant qui s'est produit à ce moment-là. Et c'est une fois qu'il a commencé à battre d'une seule âme, d'un seul feu, dans le cœur d'un embryon, déjà béni de la bénédiction, du mariage de Marie et Joseph, de cette bénédiction palpitante, de cette sensualité venue de la croix de Jésus, la future croix de Jésus, du Verbe de Dieu, quoi, déchiré en somme. C'est après cela que du coup, tout de suite après ça, que Jésus embryon a commencé à produire en lui des cellules cardiaques. C'est extraordinaire que Dieu n'ait pas voulu que les cellules cardiaques de son propre cœur, de son propre vie, de son propre corps, n'apparaissent si elle n'était pas sortie de cette visitation, de cette intronisation, de cette métamorphose de la conception du cœur sacré de Jésus, lequel n'a commencé à battre que dans un autre, que dans d'autres cellules cardiaques que les siennes. Pas très beau. Prophétie sur le mystère de l'Eucharistie, c'est que Dieu Jésus ne veut pas faire naître son cœur eucharistique jusqu'à la fin du monde sans qu'il soit pas d'abord dans le cœur carré, dans le cœur surnaturalisé, brûlé d'amour de ses fidèles, de la foi de l'Église, quoi. Ce qui montre ce côté extraordinairement dépendant. Ève est sortie d'Adam. L'Immaculée Conception est sortie du juste par excellence. Le cœur eucharistique du Christ sort comme ça. Également, il vient d'un autre que lui-même. C'est pour ça qu'il y a une identification entre Dieu le Père et le cœur du Christ. Et le cœur du croyant des derniers temps, le cœur du grand roi. Il y a quelque chose de semblable, il y a quelque chose qui relève du même visage, du même feu, de la même lumière. Il y a une indivisibilité qui apparaît. de transplantation de la petitesse, quoi, eucharistique, dans l'immensément grande, cette indivisibilité, explique tout ça. Et donc c'est très, très bien d'adopter les enfants. C'est très, très bien que la Jérusalem spirituelle, la Jérusalem glorieuse, la Jérusalem angélique, la Jérusalem souffrante, la Jérusalem ardente, s'associe à la Sainte Famille glorieuse incarnée dans le corps spirituel que l'on reçoit. Pour adopter dans son sein tous ces enfants offerts, tous ces enfants crucifiés, mais pour qu'ils puissent battre leur âme au même rythme que celui de Jésus qui s'offre dans son union hypostatique déchirée dès le départ. Et c'est bien qu'il y ait cette adoption. Et dans cette adoption, cette plongée, cette prise de possession, cette maîtrise du corps originel, cette prise de pleine prise de possession du corps originel, comme dit le pape Jean-Paul II. Cette pleine prise des possessions du corps de l'homme. Cette plénitude dès la prise des possessions du corps de l'homme. Dans les processus de l'unité responsable du corps de l'homme et de l'enfant. Alors oui, il y a une espèce d'engloutissement, il y a une espèce de... Et ça, c'est quelque chose de très simple à faire, finalement. Et tellement limpide. Tellement limpide. Cette pleine prise de possession. Regardez quand vous dites l'épître de Galates, chapitre 5. Il faut d'abord beaucoup d'amour pour eux. Il faut le faire avec beaucoup d'allégresse et de joie. Tout ça se réalise dans une paix parfaite, puisque cet amour pardonne tout et se réjouit de ceux qui nous ont permis de se trouver dans cette grâce si sublime. Et du coup, elle s'introduit dans les surabondances indivisibles de la bonté surabondante de Dieu. Elle nous met dans une bienveillance totale vis-à-vis de tout, et du coup, une attente qui relève de la grâce finale de l'Église, de la Jérusalem glorieuse, une attente sainte, une attente d'une force, d'une puissance, capable de faire éclater le temps lui-même, et de faire suspendre le temps quand tu es d'une patience infinie, le temps n'existe plus. Et cette patience fait que tu découvres l'humilité de l'union hypostatique de Jésus, l'unité de Dieu dans Jésus. Et du coup, il y a une douceur, une onction. Et du coup, ta confiance, tu as la foi, tu crois en tout. Et du coup, tu peux prendre possession du corps originel, la maîtrise de soi. Tu peux du coup prendre possession du trône. Quand tu fais ça, tu commences à comprendre ce qui se passait dans la prière, l'union transformante de Saint Joseph pendant 19 ans. Tu commences à comprendre la grandeur de ce saint qui a été une manière tellement cela que, du coup, Dieu a pu l'assumer dans les responsables de ses parents, pour faire émaner l'Immaculée Conception dans le corps, à partir de l'union hypostatique de Jésus sur la croix, à partir du Verbe de Dieu. Et le Verbe de Dieu est féminin dans la Très Sainte Trinité. L'époux, c'est le Père, l'épouse, c'est le Verbe. C'est la parole, l'expression de Dieu vivante et éternelle. C'est une expression vivante, glorieuse, lumineuse et éternelle. C'est la deuxième, c'est l'épousée. Et comme c'est à partir du Verbe de Dieu que que tout ça est tiré dans Saint-Joseph. Du coup, ça donne la femme, ça donne l'Immaculée Conception. Ça ne pouvait pas être tiré du lieu hypostatique de Jésus, comme dit la définition dogmatique de l'Église catholique. Et les explications de Saint Maximilien Marie Kolbe, elle ne pouvait pas être autre chose qu'une femme. Et ça, c'est second. Tandis que tout ce qui est tiré du Christ, c'est différent. C'est pour ça. Tout ça est limpide, 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 limpide. Tout ça coule comme de l'huile toute pure. C'est une ligne pure. Et on peut prendre possession, puisque ils nous sont confiés ils nous sont adoptés, quoi. Et nous posons, il y a cet amour, il y a cet enthousiasme, il y a cette joie, il y a cette allégresse, il y a cette paix, cette absence totale, 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 mais totale, complète, totale. Il n'y a plus aucun jugement, aucune condamnation, aucun mouvement de condamnation. Il n'y a que de la gratitude, la bonté surabondante qui fait qu'on peut être ceux qui sont comptés parmi ces saints-là du dernier temps. Il y a cet acquiescement lucide, libre, parfait, si je puis dire, presque parfait en tout cas, de l'offrande de notre innocence crucifiée dans l'innocence triomphante et divine de Jésus. Et cet acquiescement, cette gratitude bon, dans laquelle il nous entraîne. Et du coup, on voit tout dans le bien, la bienveillance. Et du coup, notre patience est transformée avec eux. Et c'est l'incarnation de la patience. Ces petites cellules de rien du tout sont vivantes, elles sont dans la centrale de la vie de la terre et de la maman. Et on peut donc aller jusqu'à la maîtrise de soi, c'est-à-dire jusqu'à la prise de possession. Nous avons autorité sur... nous avons autorité si on devient le frère, la mère, le père de ses enfants, on a autorité. Pour qu'avec l'Immaculée Saint-Joseph, on puisse les introduire et les engloutir dans le calice du précieux sang. Les consacrer au précieux sang, dans leur corps, parce que le corps c'est le lieu et la condition que Dieu a voulu de la croissance, de l'augmentation. C'est pour ça que ça ressemble à Saint-Joseph. Joseph, en hébreu, ça veut dire Dieu fait grandir, Dieu fait croître. Cette espèce d'agrandissement, et j'imagine bien, pour ça qu'il y a le rebondissement avec la messe de demain matin, et j'imagine bien que cet accroissement, il faut bien qu'il y ait comme comme dans le livre d'Ézéchiel, réceptivités incarné du corps spirituel qui cette fois-ci est fécondé par le corps glorieux du papa et de la maman, de Saint Joseph et de Marie glorifiés, ressuscités d'entre les morts, faisant écouler dans ces cellules offertes, ouvertes et toutes saintes, toutes glorifiées dans le sang de Jésus, faire écouler en eux des cellules du corps spirituel venu d'en haut, pour que leur petitesse embryonnaire corporelle augmente dans l'incorruptibilité du corps de la première résurrection qui vient. Il y a bien un lien entre cette intention de messe et la grande montée vers la mise en place du corps spirituel venu d'en haut, qui est l'immense condition, j'allais dire, méritoire de la fécondité de l'Église pour la première résurrection. Fait qu'il y a quelque chose de leur corps qui devient incorruptible dans cette conjonction du corps originel repris en main dans le sang du Christ et du corps spirituel venu d'en haut, venu se conjoindre à lui pour cet agrandissement, cette croissance qui rétablit du coup leur âme dans l'incorruptibilité du corps. Ce qui explique à mon sens à moi que ils resteront avec nous. Jésus dit ça aux Thessaloniciens, il a expliqué ça. Le Seigneur, frère, je ne voudrais pas que vous ignoriez, frères et sœurs, ce que le Seigneur nous a enseigné. Lorsque viendra le jour du Seigneur, nous ne mourrons pas tous. Et il y aura d'abord aussi la résurrection des justes. La première résurrection. Les justes ressusciteront. Et bien parmi ceux qui connaissent, si je puis dire, la mort, sans la connaître, il y a ces enfants, puisqu'ils sont encore vivants. Dans ce corps vivant. Mais ils vivent une espèce de... Ils vivent l'instant de la mort qui dure très longtemps. C'est l'instant de la mort qui dure, et ils ne sont encore pas morts. Et c'est dans cet instant de la mort qui dure, comme ça pendant 50 ans, que l'Église est chargée de venir faire écouler en eux la possibilité par les fruits, par le fruit des sacrements. Faire écouler en eux la croissance d'un corps incorruptible, corps spirituel venu d'en haut, pour le miracle des trois éléments. Alors ils seront emportés dans la première résurrection, d'une part, puis emportés à travers l'atmosphère, c'est-à-dire à travers la vie contemplative de Marie, de la Jérusalem spirituelle et à la fois glorieuse, dans le flux et reflux de l'un à l'autre, dans les noces de l'agneau. Et ils seront à ce moment-là les ouvriers, les instruments, aussi vivant de la célébration eucharistique des noces de l'agneau pour la purification de tous les éléments de la terre du sixième au septième saut. Tout est suspendu à ces enfants. Tout est suspendu à eux. Donc c'est pour ça que je voulais m'arrêter parce que l'intention que le Seigneur ait inspiré comme ça à cette petite dans son silence transformée, cette intention là je trouve que c'est tout de suite dit oui quoi. Tout de suite, bien sûr, on s'engloutit immédiatement là pour le faire, pour courir là-dedans. Et c'est ce qu'on va faire maintenant, une 21e fois. Sainte Rita avait dit, Cassia avait dit, vous savez, quand c'est absolument impossible pour les hommes, faites-le 21 fois. Parce que c'est possible pour Dieu. Les causes impossibles, n'est-ce pas? C'est là que ça vient. On fait 21 jours pour Sainte Rita, pour les causes impossibles. Et nous sommes les... Nous sommes... par rapport à ces enfants-là, comme... on est un petit peu comme... comme ceux qui ont été choisis pour admirer, quoi. Pour admirer ce que Dieu fait en eux, quoi. Admirer ce que leur liberté d'offrande, d'acquiescement, dans l'immolation et de l'union, l'indivisible union avec l'union hypostatique offerte et victimale du Verbe de Dieu, dès le départ de sa vie embryonnaire, et aussi l'odeur et la manière de le réaliser dans le mystère de compassion de l'Immaculée Conception aussi qui a démarré. Qui a démarré de cette manière, ça donne vraiment une lumière très très forte pour pouvoir contempler ce qui se passe dans les premiers pas de la vie embryonnaire de Jésus, dans les premiers pas de la vie embryonnaire de Saint Joseph aussi, 9 mois avant sa propre naissance, et aussi de la vie embryonnaire de l'Immaculée Conception dans ce mystère de compassion. C'est là qu'on touche, qu'on peut voir, pénétrer, découvrir et admirer. Et rentrer dans le mystère de la sagesse de la croix. C'est une sagesse primordiale. C'est l'Église primordiale. C'est celle qui était inscrite dans l'Église primordiale, c'est celle qui est inscrite dans le livre de la vie accomplie. L'Église de l'accomplissement, c'est l'Église primordiale. Et qu'une âme créée par Dieu, comme ça 9 mois avant la naissance, puisse voir cela, comprendre cela, contempler cela, être, s'écouler délicieusement, librement dans cette lumière pour être en elle-même transformée, métamorphosée dans cette lumière-là. Aimer cela, acquiescer, trouver ses complaisances en cela, trouver cette joie sourde et profonde à disparaître en cela et à y demeurer dans la croissance. Dans la solidarité, l'unanimité, jusqu'au miracle des 3 éléments. On comprend très bien que ça fasse l'admiration du monde angélique. On comprend très bien que ça fasse l'admiration du monde angélique. Les anges ne peuvent pas être crucifiés. Les anges ne peuvent pas être crucifiés. Alors ça fait l'apparition du monde angélique et cela explique pourquoi. Ça va de soi que dans la vie embryonnaire, l'ange s'engloutit jusqu'à l'intime, la proximité la plus forte qui soit avec l'embryon pour lui communiquer dans la vastitude le déploiement intime des secrets cachés de Dieu jusqu'à sa naissance. Ça vient de la sagesse de la croix, ça. Même si on ne comprend pas tout, on pressent tout ça. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est que dans l'oraison d'aujourd'hui, c'est pas l'oraison qu'on faisait aux années 1920. Voilà, non, les oraisons d'aujourd'hui, les oraisons de l'Église du Shikutsi Meshomer. L'oraison de l'ouverture du sanctuaire de la paternité de Dieu ouverte à tous, vulnérables. Qui seront les premiers à s'engloutir dans cette ouverture du Saint des Saints, la paternité de Dieu ouverte par les dévastateurs, pour que les insidieuses présences n'y pénètrent pas. C'est l'ardeur, c'est aujourd'hui ça. C'est l'ardeur de l'oraison dans le fruit des sacrements, de ceux qui suivent le désir on peut dire surnaturel et eucharistique de ces enfants, et on suit avec eux, et là on pénètre pour que l'ange de la paix puisse s'écarter de sa cabote du miracle des trois éléments, de cette gloire sensible, toutes les insidieuses prétentions des pénétrations mésomiques et psychosi mésomiques de notre humanité d'aujourd'hui. C'est vraiment aujourd'hui ça. Donc l'oraison de nous transformant, bien, on a ce désir d'y pénétrer, de le voir, de le contempler, d'être illuminé, de cette illumination, être sanctifié de la sainteté qui y correspond. Et cette sanctification, lumière née de la lumière, nous porte forcément dans ce lieu de la sainteté, de l'ouverture des temps, la patience de Dieu et la patience de la création tout entière sont indivisiblement présentes dans cette oraison de la cinquième demeure. Et dans cette oraison de la cinquième demeure, nous nous laissons saisir, engloutir dans ce que nous n'aurions pas pu comprendre si nous n'étions pas saisis dans cette métamorphose de l'envol de la colombe dans ce mystère nouveau de l'ouverture des temps. C'est ça la sainteté de la France, du Nouvel Israël, de Dieu au milieu des multitudes. Dieu a voulu, quoi, que cette croix glorieuse s'épanouisse et se dresse sur la terre infidèle. La chevauchée, quoi, du cœur qui palpite encore dans les cendres. Au-delà du mystère qui traverse même les espaces de notre histoire terrestre, de la résurrection, et emporté au-delà de la solennité, de l'ascension dans le sein du Père, dès cette terre. Je dis bien, on est sûr que c'est ça, qu'on est dans la ligne de la mission, quoi, des enfants de Dieu, des enfants de l'Immaculée, des enfants de la sponsalité, des enfants de la croix glorieuse. Vous voyez, par exemple, je le dis souvent, mais le cœur de Jeanne d'Arc, patronne de la France, en étendard, cette chevauchée fantastique, qui doit être celle du Nouvel Israël, de Dieu au milieu des multitudes, dont elle est le... Voilà, son cœur n'a pas brûlé dans la cendre, dans le feu de Monseigneur Cochon. Son cœur était encore donc tout vivant, tout brûlant, tout palpitant, tout chaud, tout frais même. Et donc ils ont... Donc vous savez comme moi, donc ils ont coupé en morceaux le cœur de Jeanne d'Arc pour le jeter dans la Seine, dans ce Rouen là-bas, un endroit qu'on connaît. Et puis il y a quelques-uns qui ont gardé ces bouts de cœur qui étaient encore vivants, qui palpitaient, un peu comme les cellules de l'embryon qui ne sont pas encore un cœur entier, pas du tout, et qui palpitent déjà. Et là, le cœur de Jeanne d'Arc palpite encore dans les toutes petites parties du cœur de Jeanne d'Arc. Et le cœur d'amour de Jeanne d'Arc est encore vivant. Le cœur d'amour de Jésus et de Jeanne d'Arc est encore vivant dans une palpitation incorruptible. Et l'Église catholique a décidé d'en faire une solennité le dimanche qui suit le 8 mai. De chaque année, c'est une solennité, et le 8 mai de chaque année, le dimanche qui suit le 8 mai de chaque année, c'est toujours un dimanche de Pâques. Donc ça veut dire qu'elle dit que ça dépasse le mystère de la résurrection, puisque on fait plus la Pâques le dimanche de Pâques si c'est ce jour-là. La solennité passe devant, c'est plus important. Ça veut dire que ça va plus loin que le mystère de la résurrection, la vocation de la France. C'est lié à ce cœur qui bat encore, hein, voyez. Et regardez le lien qui se fait comme ça entre l'Église militante de la France et les apôtres des derniers temps, dont le cœur bat là, ici, de conjoindre les deux. Dans le cœur eucharistique, ça y est, trois en un, en trois, Elohim, Rakadesh Elohim, c'est l'absolution du monde, ça. Que nous aurons dans l'ouverture du cinquième saut, n'est-ce pas vrai? C'est ça l'explication de l'absolution du monde. Il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de... Oui, il n'y a plus rien que ce don qui est fait et l'acquiescement dans lequel tout le monde va pouvoir s'introduire. C'est bien de s'arrêter comme ça quelquefois avant la messe pour dire c'est quoi l'intention de la messe. Faudrait écrire tout ça, hein. Dire partout. Faudrait mettre ça sur Internet. Mais est-ce que sur Internet les gens vont entendre ça? Je sais pas. Je sais pas. Mais c'est. Oui, je crois que les gens entendraient. Je crois. Vous savez pourquoi? Parce que c'est très simple, en fait. C'est pas compliqué du tout. C'est pas intellectuel. C'est pas un message. Personne dira ça dans un message. Si. Quelqu'un l'a lu, toc, d'un seul coup on va avoir un message qui dira quelque chose de ce genre. J'en connais plein qui font comme ça. Tiens, j'ai reçu un message, tu sais, oui, bon, tu es sûr. Mais c'est pas un message. C'est pas un message, c'est la sagesse de la croix, c'est tout, vécu par les enfants et vécu par la sainteté du roi de France, de la royauté, de la sainteté, de la mission du nouvel de l'Israël ultime de Dieu sur la terre. Et nous, nous vivons de cela avant que ça ne puisse s'exprimer dans ce silence d'environ une demi-heure. Il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Je ne sais pas comment on dit ça en italien. Il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure dans l'Apocalypse. Il se fit dans le ciel. Ça commence comme on dit en italien. Il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. L'oraison de l'union transformante avant que ça n'arrive, pour que cela puisse arriver. Priorité absolue à l'oraison pour que cela arrive. Priorité absolue à l'oraison. Il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Trois fois 7 minutes. Pour ce qui est impossible à tous les saints de la terre, y compris Pape Saint-Pilice, de tous les temps et tous les lieux, sont possibles pour Dieu dans la sainteté. réouverture des temps. Mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui en soit la cause méritoire. Pas d'Immaculée Conception s'il n'y a pas le nard de Saint-Joseph pendant 19 ans. Il faut qu'il y ait une cause méritoire, il faut la France, il faut qu'il y ait cette sainteté toute d'une humilité absolument incarnée de Dieu dans une chair humaine remplie d'amour. Lucide hein, sur la sagesse de la croix, hein. Peut-être pas lucide sur lui-même, mais lucide sur la sagesse de la croix, et palpitant en elle, pour toute la nature humaine. Les enfants, quand ils palpitent comme ça d'amour, dans la palpitation eucharistique, ils palpitent pas pour eux-mêmes, ils palpitent pour toute la nature humaine, toute la nature humaine. Eux, ils palpitent pour toute la nature humaine, pas pour leur appartement à eux. Non, 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 pas du tout, mais pas du tout, mais pas le moins du monde. Pour toute la nature humaine. Et c'est ça que le Seigneur nous donne dans la grâce, lorsqu'on fait oraison. Il nous établit par métamorphose dans cet état où c'est effectivement, de manière très sensible, une palpitation de notre chair, de notre sang, de notre cœur, dans la nature humaine tout entière. C'est celle de la nature humaine tout entière. Assumée, confondue et absolument pas fusionnée. Qu'est-ce que vous en pensez, sœur Nassira?
Tu es fier.
Gloria in excelsis Deo, avet in terra pax hominibus bonae voluntatis, laudamus te. Benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tua. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigente, Iesu Christe, qui tollis peccata mundi, messere, Ere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram patri, messere ere nobis, caniam tu solus sanctus, Tu solus Domino, Tu solus Altissimus, Jesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris.